Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème!
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial!
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue dans Cinérama, la 79e édition du Festival de Cannes bat son plein jusqu'au samedi 23 mai. Ce sera le moment de découvrir qui a eu la Palme d'Or et puis les autres prix. Une partie de l'équipe de Cinérama est sur la croisette depuis le dimanche 17 mai. Alors on a pu voir plus de 10 films en compétition, dont le film d'Almodovar qui sort également sur les écrans, Sophia.
Et effectivement Vincent, j'ai pu voir le film en séance de presse, avant la montée des marches de toute l'équipe pour la projection officielle.
Et d'ailleurs, l'équipe vient juste de monter les marches et le film est projeté aux autres festivaliers. On est tout près du Palais des Festivals avec les gens qui vont et qui viennent. Durant cette émission, nous allons vous parler en quelques mots de ce que nous avons vu et puis on va essayer aussi d'entendre quelques réalisateurs présents en conférence de presse. Quant à Guillaume, qui est resté dans les studios, lui, il nous parlera en fin d'émission d'un film « Les goûteuses d'Hitler ». Mais nous commençons avec ce film de Pedro Almodovar qui a suscité beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie d'assister à la projection. Et puis, quand on est à Cannes, on voit devant le Palais des Festivals tout un tas de personnes plutôt bien habillées qui ont des pancartes et on est allé vers eux aujourd'hui.
This is Cinérama.
Alors, vous êtes devant le Palais des Festivals et là, vous êtes bien habillé déjà, le pape et tout.
Tout donné pour ça.
Ouais. Alors, c'est quoi l'objectif pour vous là maintenant?
C'est de trouver un billet pour Almodovar à 19h.
Pour son film Armageddon Navidad.
Et alors, c'est la première fois que vous faites ça, c'est-à-dire, on explique, vous avez une pancarte cherche billet Almodovar 19h, avec des petits dessins.
Ouais. Un dessin d'un mec tout nu.
Tout nu qui est content. Voilà. C'est un peu pour attirer l'attention. Ouais. On n'a jamais fait ça, donc.
C'est pour se démarquer.
Ah, vous n'avez jamais fait ça.
Non, mais du coup, on va essayer de faire comme les mecs qui vendent des trucs aux stations essence où on va lancer les trucs comme ça, on va faire une petite chorégraphie pour.
On va danser, quoi. Ouais. En fait, ce film, il sort demain, on pourrait le voir au cinéma, mais c'est juste c'est plus drôle de jouer le jeu, quoi.
Ouais.
Et de mendier en costard aussi, c'est assez marrant. Ça résume un peu tout ce festival, je crois.
Ouais, carrément.
Bon, mais bon courage,
Merci beaucoup.
Parce que là, vous avez encore 40 minutes.
Ouais, c'est 1h, 40 minutes.
Dans 15 minutes, on a 2 tickets, c'est bon.
Ouais, facile.
Courage.
Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
Élise, vous êtes devant le Palais des Festivals et vous avez une intention ce soir, c'est de voir le film d'Almodovar. Et pour ça, qu'est-ce que vous faites?
J'ai fait une petite pancarte disant que je cherche une invitation ou un QR code, vu que j'ai une accréditation, pour pouvoir rentrer au film si quelqu'un a une place en trop.
Et ça, vous l'avez déjà fait ou pas?
Oui, plusieurs fois.
Et alors, ça marche ou pas?
Oui, ça marche. C'est ma 4e fois, et du coup, les 3 fois de cette semaine, je suis rentrée 2 fois sur 3.
Oui, donc c'est bien. Et donc à chaque fois, vous faites les montées des marches, mais en bien habillé.
Oui, il n'y a pas le choix, sinon on ne passe pas, donc ça ne sert à rien de faire la pancarte sinon. Ouais.
Vous avez choisi plusieurs films, dont Almodovar, et qu'est-ce que ça représente pour vous, Almodovar?
C'est un cinéaste culte, qui a une filmographie incroyable, donc le fait qu'il soit présent au festival, forcément, ça fait partie des films les plus attendus, donc j'ai envie de pouvoir vivre cette expérience avec tout le monde et en direct.
Parce qu'on peut le dire, quand on est avec l'équipe du film, c'est vrai que le Théâtre Lumière, c'est une ambiance particulière par rapport à toutes les autres salles où il n'y a pas l'équipe du film qui est là. C'est ça que vous cherchez aussi.
Oui, bien sûr. Effectivement, moi, j'aime le cinéma et les films. Après, si y a les équipes en plus, c'est toujours sympa de partager ça avec les équipes et puis aussi avec les autres spectateurs qui découvrent ça en même temps. Et en fait, le fait de vivre ça, ça crée beaucoup plus d'émotion en salle et on ressent ce que les autres spectateurs peuvent ressentir en même temps aussi.
Donc, Amarga Navidad, soit autofiction pour la distribution française, le film de Pedro Almodovar. Toi, Sofia, eh bien, tu l'as vu et tu nous en parles.
Et oui, c'est la 7e tentative d'Almodovar pour remporter la Palme d'Or. Hein, et pour ce 25e long métrage, lui qui est décidément bien plus prolifique que son alter ego filmique, hein, il revient à l'espagnol et à l'intime, après son Lion d'Or vénitien pour La Chambre d'à côté, qui était en anglais avec un casting plutôt US. Le film s'appelle donc Autofiction en français et suit deux trames de récit. D'un côté, Raoul, cinéaste culte en panne sèche depuis 5 ans, qui n'hésite pas à vampiriser la vie de ses proches hein, pour se remettre à écrire, quitte à piocher dans le deuil privé d'une ancienne collaboratrice. Hein. Et on comprend que c'est dans ce cadre, hein, pour ce scénario-là, qu'il tapote à son ordi, qu'il invente alors Elsa, une réalisatrice dont le parcours commence à refléter le sien. Et Elsa, à son tour, se retrouve à avoir son propre relais fictif, mise en abîme, puis mise en abîme dans la mise en abîme. C'est assez vertigineux, très méta, et ses échos se retrouvent dans la palette bariolée du réalisateur, des lignes de couleurs, des mots qui surgissent en gros plan, envahissent l'écran, hantent les personnages et participent à une syntaxe visuelle qui obsède sur l'acte même d'écrire et de créer. Bon, alors, ce qui est sans doute le plus réussi, hein, et paradoxalement peut-être aussi un peu la limite du film, eh bien, c'est qu'Almodovar garde la main sur le gouvernail. La mise en abîme est construite, maîtrisée, presque un petit peu trop élégante. Il se regarde avoir une crise davantage qu'il ne la traverse vraiment et va jusqu'à retourner l'ironie contre lui-même dans une longue scène dans un parc de Madrid. Raoul, hein, donc son alter ego dans le film, dresse la critique de son propre scénario à voix haute, hein, comme si le film se mordait la queue et livrait son propre antivenin, ce qui apparaît quand même franchement brillant, pour peu qu'on ait envie de s'accrocher jusque-là. Donc Autofiction s'affiche un peu comme un film de transition qui est assez habile, souple, plutôt sincère. Il y a quelque chose d'assez émouvant à voir Almodovar à 76 ans hein, se poser publiquement la question en toute lucidité de ce qu'il a encore à dire et à le voir refuser de faire semblant d'avoir la réponse à cette question. Alors si Autofiction est à Almodovar ce que 8,5 a été à Fellini, alors ce film n'est pas à considérer comme un aboutissement, mais peut-être plus une libération, une façon de vider publiquement l'abcès pour pouvoir repartir, dégager vers quelque chose de nouveau en conscience.
Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final.
Ce film, Autofiction de Pedro Almodovar, est en salle depuis le 20 mai. Alors nous sommes toujours sur la croisette, pas très loin eh bien, du Palais des Festivals où est projeté le film du réalisateur espagnol. Et ce film nous donne l'occasion de parler d'un autre film, d'un espagnol, qui lui aussi eh bien, a fait un film avec un réalisateur. C'est Rodrigo Sorogoyan qui a présenté L'être aimé, un film dans lequel le réalisateur est incarné par Javier Bardem, un acteur monstre qui porte le film de manière conséquente, mais pas seulement lui. Il y a aussi une mise en scène orchestrée par le réalisateur de Asbestas. Elle apparaît dès la première séquence, qui est un prologue assez long. Hein. Dans celui-ci, un réalisateur qu'on sait renommé va proposer un rôle à une jeune femme dont on comprend assez vite qu'il s'agit de sa fille. La séquence qui se déroule dans un petit resto s'étire et Sorogoyan use de plans rapprochés en contre-champ et du gros plan, voire du très gros plan. Ces deux personnages seront les sujets du film, ça on en est sûr. Pour résumer, ce réalisateur qui a deux Oscars à son actif refait un film en Espagne qu'il avait quitté puis donne un grand rôle à sa fille alors qui est une actrice en peine et surtout c'est une jeune femme qu'il n'a jamais élevée. Le problème c'est que ce scénario d'un réalisateur qui se sert d'un film pour rabibocher les liens familiaux était déjà au festival l'an passé avec Valeurs sentimentales de Joachim Trier qui avait remporté le grand prix. Alors autant j'avais peu apprécié le film du Danois, autant celui du cinéaste espagnol me semble mieux troussé. Le plan du réalisateur est assez clair hein, dès le début. Il veut se rattraper de ne pas avoir été là pour sa fille. Il se sert aussi de ce tournage pour retisser les liens, quitte à y mettre aussi de la violence. Ce tournage devient un lieu où s'exercent les pouvoirs, celui du réalisateur hein, évidemment, mais aussi le refus de certains techniciens d'accepter ce qui a fait le succès du cinéaste qui avait l'habitude de s'emporter avec son équipe. Il y a une scène étonnante récente où il demande à ses acteurs de vraiment manger, mâcher, et que ça se voit à l'écran. C'est une séquence là aussi qui dure longtemps et qui est vraiment très impressionnante. La prise est faite et refaite jusqu'à l'explosion. Cet être aimé est moins un film sur le cinéma que sur la dépendance familiale et les luttes qui s'y expriment. De là à ce qu'il ait un prix, ça je n'en sais rien, mais en tout cas ce film sera prochainement sur nos écrans. Alors, contrairement à Almodovar, qui n'a eu aucune palme d'or mais divers prix, James Gray, lui, n'a jamais rien obtenu. Et on peut dire que le cinéma américain, cette année à Cannes, était peu représenté. Il y a The Man I Love de Ira Sachs avec Rami Malek, et puis Paper Tiger de James Gray, qui a été repêché, mais vraiment au dernier moment, car le réalisateur a dû se laisser convaincre de revenir en compétition. Alors, son film est une réussite, hein, comme beaucoup de ses films, on pourrait dire. Hein, il y a une maîtrise du sujet. Alors souvent c'est la classe ouvrière, ici c'est plutôt la classe moyenne, et puis une maîtrise aussi de la mise en scène. Le récit est absolument limpide. Dans ce film, Gary, interprété par Adam Driver, un ex-flic un peu flambeur, tente de convaincre son frère ingénieur Irvin, joué par Miles Taylor, de participer à un projet de nettoyage du canal du côté de Brooklyn pour le compte d'hommes d'affaires russes liés à la mafia. Alors, pour rassurer son frère, qui hésite à s'engager avec des criminels qu'il juge plutôt terrifiants, eh bien Gary balaie ses doutes en lui affirmant, de manière alors plutôt détendue, que ces mafieux ne sont que des tigres de papier. Alors, c'est une expression anglaise qui veut dire que ces hommes, finalement, de la mafia semblent puissants, mais ils sont en réalité inoffensifs et fragiles. Et ce que le frère croit. Et par naïveté, il va s'attirer des ennuis qui auront de grandes conséquences, ce qui va permettre à James Gray de questionner bien les liens familiaux. Le film s'ouvre avec une phrase d'Eschyle, hein, pour que ma vie soit préservée du malheur, qu'il me suffise d'être sage. Et cette phrase, il faut la garder pendant tout le film, parce que les deux frères sont incapables de se contenter de ce qu'ils ont déjà, et c'est ce qui va les faire chuter, ou au moins l'un d'eux. Enfin voilà, je n'en dis pas plus finalement pour ce film de James Gray, qui sera en salle. Alors je ne sais pas si la date a été fixée, mais en tout cas je vous recommande d'aller le voir, et on espère pour le cinéaste américain, eh bien, qu'il aura cette année un prix. Et on écoute quelques mots du réalisateur américain James Gray, qui était en conférence de presse à Cannes.
Le titre est, comment dire, il est vrai. Le personnage d'Adam, c'est le tigre de papier. Et puis il y a une ironie. Miles n'est pas un tigre de papier à la fin, on le voit. Et puis il finit par se réaliser. Et puis tout le monde comprend que le système lui-même, le système russe, est sous-estimé, et qu'il est pernicieux, dangereux, qu'il a de la puissance. Mais eux ne le voient pas. Et leur faculté de se développer, de réussir dans ce système qui est tellement écrasant. Donc le titre renvoie énormément de comportements ironiques.
Alors nous sommes toujours à Cannes, sur la croisette, en train de faire le débriefing des quelques jours que nous avons passés sur le festival. Et toi, Sophia, tu as vu L'Inconnu.
Oui, j'ai vu L'Inconnu d'Arthur Harari, qui revient donc en compétition à Cannes, mais pour la première fois en tant que réalisateur, lui qu'on connaît comme co-scénariste d'Anatomie d'une chute, Palme d'Or 2023. Et donc, il arrive avec un film assez intriguant, adapté de la BD de son frère cadet, qui traite de body swap ou body switch. En français, on dirait échange de corps ou métampsychose, c'est-à-dire transvasement de l'âme dans un autre corps. Alors le pitch est plutôt simple. David est photographe, solitaire, un peu en bout de course, hein, sur le plan créatif. On l'entraîne à une fête où il n'a pas spécialement envie d'aller. Là, il croise une femme du regard, ils font l'amour et il se réveille dans son corps à elle. Voilà, le body swap a lieu. C'est un genre qui jusqu'ici était plutôt réservé aux comédies. Hein, on peut penser à Freaky Friday, 13 Going on 30, mais que Harari ici transplante dans un terrain radicalement différent. Ça dévie vers le body horror, sans sombrer vraiment dans l'horrifique. Ça flirte avec le thriller métaphysique, quelque part entre Being John Malkovich et Mulholland Drive. Et ce qui est remarquable, c'est vraiment ce travail des corps. On voit notamment Nils Schneider mettre en mouvement son corps d'homme, comme si c'était véritablement une jeune femme qui l'habitait. Et inversement, Léa Seydoux en David est particulièrement convaincante. Il y a dans ce film des protagonistes qui sont terrassés par une fatigue d'exister, à laquelle va se mêler une grande douceur dans cette manière de se réaccaparer des nouveaux corps inconnus. Alors, personnellement, le film m'a évoqué le Orlando de Sally Potter, hein, avec Tilda Swinton, même si ce n'est pas vraiment une transformation à travers le temps, hein, qui se produit ici dans l'inconnu, mais un échange entre deux êtres. Dans les deux cas, on interroge en tout cas la permanence du moi quand le corps change. Est-ce qu'on est notre corps, en fait ? Est-ce qu'on est le regard des autres sur nous ? Quid du désir, du plaisir, des émotions quand on n'est plus dans le corps que nos proches connaissent ? Harari pose ses questions sans y répondre franchement, et c'est vraiment une petite curiosité déroutante dans cette compétition.
L'Inconnu est un film français en compétition à Cannes, au festival où nous nous trouvons actuellement, hein, sur la Croisette, et ça donne l'occasion de parler de deux autres films français qui sont aussi en compétition. Parlons de ces films qui portent l'un un prénom et l'autre un nom. Alors on saisit de suite, hein, qu'on va s'intéresser à un personnage. L'un s'intitule Garance, il est anonyme, purement fictionnel, et puis l'autre Moulin. Et là, il s'agit du chef de la résistance. Alors autant le dire tout net, celui du Hongrois Laszlo Németh, donc le Moulin, pourrait prétendre un prix, tandis que l'autre de Jeanne Herry aurait, lui, sans doute plus de mal. Cela tient autant au sujet porté par ces deux longs-métrages qu'à l'ambition cinématographique qu'ils couvent. Garance, tout en souplesse, nous laisse suivre Adèle Exarchopoulos, qui a un gros penchant pour la bouteille, hein, c'est le verre festif, et puis celui pour se donner du courage, et puis celui quand tout va bien, et enfin quand ça va mal, enfin c'est tout le temps. Et la qualité du film tient au fait qu'il ne s'appesantit pas sur la maladie qu'est l'alcoolisme. Elle est là, elle a des conséquences, hein. La réalisatrice fait le choix de la singularité, déjà en choisissant une jeune femme, et puis en lui mettant, eh bien, dans les pattes une autre femme, Sarah Giraudeau, qui ne la juge pas. Elle s'aime, et cet amour, ainsi que d'autres ingrédients comme un mauvais scanner, hein, qui permet de mettre une image sur des symptômes, eh bien, vont permettre à Garance de tenter de s'en sortir. Le film se referme et on n'a pas l'impression d'avoir vu finalement un film sur l'alcoolisme, mais aussi un film sur la galère de vivre, sur ce besoin d'amour et la force que cela peut donner. C'est simple et très efficace. Pour Moulin, alors là on est dans un autre univers. Laszlo Németh, un auteur de l'inoubliable Le Fils de Saul, livre un film aussi audacieux qu'instructif pour moi qui connaissais la figure de Jean Moulin sans en avoir les détails, comme ceux de sa capture et de sa lutte avec Klaus Barbie. Alors c'est de cela qu'il est question. Le film commence doucement en nous montrant les tactiques et stratégies de la résistance, nous plongeant dans un autre film dès que Moulin se fait arrêter avec d'autres suspects de la résistance. La Gestapo sait qu'elle a pris le chef mais ne sait pas de qui il s'agit. Moulin, lui, craint pour lui. Il dit à ses camarades « J'ai peur de parler » ou « Je vais parler », je crois. Enfin, voilà, je n'ai pas la phrase précise, mais ça ressemble à ça. Le réalisateur fait transparaître cette crainte. La seconde partie du film traite de l'enfermement et de la manière d'abord douce et habile utilisée par Barbie pour démasquer Max, puis la manière forte ensuite, hein, à grand renfort de justification nauséabonde. Une partie de cette souffrance apparaît sous forme de son, hors champ, renforçant son impact. La lumière prend aussi des teintes particulières quand elle ne se fait pas faiblarde, appuyant l'enfermement et le flirt avec les ténèbres. Pour moi qui n'aime pas beaucoup les biopics, eh bien j'avoue que ce Moulin a de grandes qualités et je ne serais pas surpris qu'il ait un des prix de la sélection cannoise. Hein, et alors je ne sais pas si ce sera la Palme d'Or, mais la mise en scène, pourquoi pas. Et si on écoutait Gilles Lellouche qui interprète ce Moulin ?
En fait, c'est une sorte de sidération parce qu'on se dit pourquoi moi plutôt qu'un autre, en fait. Et puis, il y a cette énorme responsabilité de porter sur ses frêles épaules cet homme illustre, cette possibilité d'engager un personnage qui va aller au-delà d'un nom sur un lycée, quelques lignes sur un livre, de le rendre vivant. Mais quelle légitimité pour le rendre vivant, en fait. Et j'ai été très aidé par l'incroyable écriture, l'exigence absolue de Laszlo. Et en fait, il y avait une espèce de responsabilité dingue, terrible, sur le film qu'on était en train de faire, en fait. Il n'était pas question de faire une biographie, il n'était pas question de faire un biopic, il n'était pas question d'avoir une espèce de vision large, il était question d'entamer le personnage dans sa sincérité, dans sa personnalité, dans ce qu'il est de plus intime.
Toujours à Cannes, sur la Croisette, pour parler cette fois-ci de Fjord et Marie-Claire.
Presque 20 ans après sa Palme d'Or pour 4 mois, 3 semaines, deux jours, le Roumain Cristian Mungiu revient en compétition à Cannes avec Fjord et c'est son premier film en langue étrangère. La caméra est posée en Norvège, dans un village au bout d'un fjord, une Scandinavie de cartes postales hein, qu'il va se faire une joie de faire voler en éclats. Renate Reinsve, hein, qu'on avait déjà vu en compétition l'an dernier dans Valeurs sentimentales dont tu parlais tout à l'heure, Vincent, hein, le fameux prix, grand prix hein, de Joachim Trier. Donc cette Renate Reinsve incarne avec Sébastien Stan un couple roumano-norvégien, les Géorgiou, qui s'installent avec leurs 5 enfants dans un village isolé. Ils se lient d'amitié avec leurs voisins, les Alberg, tout se passe bien jusqu'à ce qu'on découvre des ecchymoses sur le corps de leur fille aînée. La communauté commence alors à soupçonner que l'éducation traditionnelle hein, des Géorgiou bah, pourrait en être la cause. Alors clairement, ce film m'a fait penser à La Chasse de Thomas Vinterberg, mais transposé sur le terrain des violences intrafamiliales. Mungiu aime bien faire ça, hein, lui qui a déjà remporté une palme en 2007 pour 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Prendre une communauté, y injecter un doute et regarder comment la suspicion se propage comme une maladie. Ici, c'est la question de l'éducation, des frontières entre tradition et maltraitance et du regard que porte une société sur ce qu'elle ne comprend pas. Une question de fessée, une question d'altérité. Un film donc qui met mal à l'aise et qui reflète bien la difficulté qu'a notre société à faire communauté dans la différence. Un film froid, glaçant hein, par moments, et déjà un peu un film de procès, et ce n'est pas le seul que j'ai vu, hein, tu le mentionnais. J'ai également vu hors compétition l'affaire Marie-Claire. Alors, changement de décor, ici le film commence avec une formule, il faut que la honte change de camp. Dans ce film donc réalisé par Lauriane Escaffre et Ivo Müller. Il faut que la honte change de camp, donc c'est Gisèle qui la prononce. Gisèle Halimi, 50 ans avant le procès des viols de Mazan, hein, une autre Gisèle faisait basculer une affaire de faits divers en un procès pour l'histoire. C'était en novembre 72, Marie-Claire Chevalier, 16 ans, avorte après un viol. Sa mère et les femmes qui l'ont aidée hein, comparaissent également devant le tribunal de Bobigny. Et Gisèle Halimi prend alors un pari radical. Hein, elle leur demande, hein, en tant qu'avocate, de ne pas plaider coupable. Mais voilà, elle décide de faire le procès de la loi elle-même. Comme on sait d'emblée, hein, avec notre recul historique, que le verdict, après une plaidoirie importante, hein, a été une victoire et que 3 ans plus tard, la loi Veil dépénalisait l'IVG, on prend plaisir à découvrir, à travers ce film, hein, comment le combat est mené. C'est un film donc de procès, un genre qui peut vite sembler didactique, mais là, la matière est suffisamment puissante pour nous attraper. Charlotte Gainsbourg aussi nous attrape en incarnant Halimi avec brio. Et voilà, le film est particulièrement d'actualité, hein, alors qu'on sait qu'actuellement, voilà, les droits reproductifs sont à nouveau un champ de bataille dans de nombreux pays. Ben voilà, voir comment une femme seule a réussi à faire trembler une institution entière, avec ben, comme seule arme sa parole et sa stratégie juridique, c'est un rappel salutaire et nécessaire.
Ce film, Marie-Claire, était à Cannes, effectivement, tout comme deux autres films dont on va parler pour clore cette émission, que nous enregistrons alors, sur la croisette avec les moyens du bord. Nous parlons maintenant de Hope à Cannes. Chez les Coréens, ceux qui ont marqué sont Park Chan-wook, qui est président d'ailleurs du jury de cette 79e édition, et puis Bong Joon-ho, qui avait remporté la palme avec son Parasite. En voilà un nouveau qui a dynamité la compétition, c'est Na Hong-jin, puisque Hope prend l'allure d'un blockbuster entre science-fiction et film de monstres. 2h40, hein, tout de même, dont une première heure de folie. On suit un policier moitié trouillard, moitié courageux, qui voit tout le tort que commet ce qui est d'abord pris pour un tigre, mais qui, de toute évidence, est une créature bien plus imposante parce qu'on voit des voitures valdinguer. Et voilà, bah, il faut quand même le faire. Nous sommes plongés dans une petite ville frontière de la Corée du Nord où tout le monde est armé. Alors ça donne des scènes plutôt comiques. La traque est lancée et elle est sanglante. Le film est brillant dans sa mise en scène, épousant plusieurs genres, dont celui d'ailleurs de la comédie, avec plein d'effets, surprises et comiques. Ça n'aura sûrement aucun prix. Avec un président sud-coréen, il y aurait quelque chose de consanguin, mais il ne faudra pas le manquer en salle, ce film Hope. Et puis on termine avec Minotaur dans un autre genre, mais avec la même durée, 2h40. C'est le film d'Andrei Zviagintsev. Après Léviathan, prix du scénario en 2014, le russe quitte la culture biblique pour la grecque en prenant cette créature taurine. Comme chaque fois, la mise en scène est temple, c'est-à-dire que les séquences s'étirent avec précision, permettant de bien saisir les personnages. Alors il y en a deux qui importent. Il y a surtout Gleb, chef d'entreprise prospère, qui vit avec sa femme Galina, c'est l'autre personnage, et leur fils dans une belle maison dans une petite ville russe. Le chef d'entreprise a deux gros dossiers. D'une part, il doit fournir parmi ses employés 14 hommes pour aller combattre sur le front ukrainien. Et puis à la maison, il le sent, sa femme a une liaison. Dans un cas comme dans l'autre, il va se comporter en homme ignoble, veule et mesquin. Le réalisateur russe veut montrer le dérèglement moral de son pays qu'il a maintenant quitté. Mais ce remake de La femme infidèle de Chabrol n'a pas beaucoup convaincu finalement. Alors pour moi, il est un peu frais ce film, mais je l'ai plutôt apprécié malgré sa longueur. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette 79e édition du Festival de Cannes. Nous présentions cette émission comme chaque année, quand on est présent sur le festival, et bien sûr La Croisette avec Les Moyens du Bord. J'espère qu'elle vous a été agréable et qu'elle vous donnera envie d'aller voir tous ces films. Nous allons clore cette partie pour parler de l'actualité dans les salles. Et c'est avec les goûteuses d'Hitler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme est contrainte de goûter les repas destinés à Hitler pour prévenir évidemment tout empoisonnement. Allez, c'est Guillaume qui nous en parle.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Merci. En 1943, Rosa quitte en Berlin ravagée par les bombes pour rejoindre un village perdu de Prusse orientale, tout près de la Wolfschanze, le quartier général d'Hitler. Elle espère y attendre en sécurité le retour de son mari envoyé sur le front russe. Mais à peine installée, elle est enrôlée de force dans une mission aussi absurde qu'angoissante, devenir l'une des goûteuses chargées de tester les repas destinés au Führer. Alors trois fois par jour, Rosa et plusieurs autres femmes doivent manger avant lui, afin de vérifier qu'aucun poison ne s'y cache. Cette menace permanente ne tarde pourtant pas à être éclipsée par une autre réalité. Mais en occupant cette place particulière, Rosa se retrouve plongée au cœur même du régime nazi. Entre peur, privation et tension constante, elle noue des liens clandestins avec les autres femmes et se laisse entraîner dans une relation interdite avec un officier SS.
Also findest du ihn attraktiv und nicht nur ein Mistkerl, Leni?
Le roman de Rosella Postorino réunissait tous les éléments nécessaires à un grand drame historique autour d'un aspect méconnu de la paranoïa sécuritaire du pouvoir nazi. Alors si l'idée du goûteur évoque forcément quelques souvenirs passés comme celui du pudding empoisonné à l'arsenic d'Astérix et Cléopâtre, le récit s'appuie ici sur une histoire bien réelle. L'autrice s'est inspirée du témoignage de Margot Walk qui, à 96 ans, révéla avoir servi durant 2 années comme goûteuse personnelle d'Hitler près de son bunker de Prusse orientale. Silvio Soldini adapte fidèlement cette matière romanesque et parvient, malgré une réalisation parfois trop sage, à restituer l'atmosphère extrêmement oppressante d'une Allemagne en train de s'effondrer sous l'avancée soviétique. Alors, plus qu'un simple suspense autour de l'empoisonnement possible, le film s'attarde sur le quotidien d'une femme ordinaire prise dans la machine d'un régime monstrueux. Et c'est dans ces moments-là qu'on rejoint un grand classique du film de guerre allemand depuis la chute d'Olivier Hirschbiegel en 2004, à savoir la manipulation du peuple qui découvre l'horreur profonde du Troisième Reich.
Auf dem Rückzug unserer Truppen dürfen wir uns wünschen zu verlieren.
Même si la mécanique des repas répétés finit par provoquer quelques longueurs, le film trouve justement son second souffle dans ses relations humaines de plus en plus complexes. L'amitié qui se construit entre Rosa et une jeune femme juive dissimulant son identité apporte une dramaturgie plus étoffée, mais c'est surtout le rapport ambigu entre Rosa et Max Siegel, officier SS brutal et méprisant, qui donne au récit sa dimension la plus troublante. Leur liaison sentimentale et charnelle rappelle forcément le malaise vénéneux du célèbre portier de nuit de Liliana Cavani. Ces ajouts à la trame de base sont bénéfiques car Soldini, à travers ce groupe de femmes enfermées dans une survie permanente, à la fois protégées et sacrifiées, permettent de mieux parler de l'impact de la politique du tristement célèbre moustachu, une ombre maléfique que le film maintient constamment hors champ. Au-delà de son contexte historique, hein, Les Goûteuses d'Hitler interrogent surtout la frontière incertaine entre innocence et complicité. Ces femmes ont subi la barbarie du régime tout en contribuant, malgré elles, à protéger celui qu'il incarnait. Ces questions morales, les plus passionnantes, il faut le dire, du film, trouvent ainsi un écho dans L'Abandon de Vincent Garinck sur les circonstances qui ont amené au meurtre barbare de Samuel Paty, symbole d'une violence idéologique, mais qui n'a pu se concrétiser que par une chaîne humaine. À méditer.
Ce film Les Goûteuses d'Hitler est en salle depuis le 20 mai.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, on aura quitté La Croisette et le Festival de Cannes, mais on pourra sans doute parler du palmarès, Sophia.
Bah oui, bien sûr, et puis on prendra beaucoup de plaisir à parler de tous les autres films qu'on a pu voir et dont on n'a pas pu traiter dans le cadre de cette émission.
À la semaine prochaine.